1901, place aux associations.
Bonjour à tous, c'est l'émission 1901, place aux associations. Aujourd'hui, nous recevons l'ACCP, l'Association des cités de Champagne de prévention. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Monsieur Anneau, qui est le président de l'ACCP. Bonjour.
Bonjour.
Ainsi que de Monsieur Fantova, directeur de l'ACCP. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, une association qui a été créée le 1er avril 1987, c'est-à-dire il y a quelques années, et on en parlait tout à l'heure avant l'émission, elle a souvent changé de nom pour devenir aujourd'hui l'ACCP. Vous allez nous dire déjà la première question. Vous accompagnez les jeunes de 13 à 25 ans, quelles sont vos missions ?
Ben la mission première de l'ACCP, donc, c'est la prévention. C'est à ce titre que on est financé par l'agglomération dans le domaine de la prévention de la délinquance et par le département de la Marne au cadre de l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est cette mission première, c'est d'aller au-devant des jeunes et d'aller sur les quartiers et d'assurer tous les jours une présence sociale. Et puis j'ai un mantra, je dis toujours, oui on a un bureau, on a un siège social, mais notre véritable bureau à la CCP, c'est la rue. C'est un slogan, mais c'est vraiment la base de notre métier. Notre bureau, c'est la rue. C'est d'être dans la rue, au contact avec les jeunes de 16 à 25 ans, comme vous avez précisé. Mais ça peut déborder, on peut avoir des plus jeunes et puis même des un peu plus âgés. Mais contractuellement, notre mission, c'est auprès de ces jeunes de 16 à 25 ans.
On parle de prévention, mais on parle aussi d'autonomie.
Oui, l'autonomie, c'est-à-dire que ces jeunes, ils sont souvent en rupture, en situation d'isolement, ils sont en rupture sociale, en rupture familiale, en rupture scolaire. Et donc le but de nos travailleurs sociaux, qui sont des éducateurs, c'est d'aller vers ces jeunes-là et d'aller les contacter. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à les trouver sur le terrain. Avant, c'était dans les cafés qu'on trouvait les jeunes. Maintenant, on trouve de moins en moins dans les cafés, parce que la bière est plus aussi bon marché que cela. Donc, on les trouve aussi en dehors des structures comme les cafés. Mais aussi, ce qui est nouveau, c'est que les jeunes, ils sont aussi maintenant, leur bureau à eux, c'est souvent le réseau, c'est sur le net qu'ils sont. Donc c'est de plus en plus difficile d'aller au contact de ces jeunes qui sont en rupture sociale. Voilà.
Quelle est la limite de votre terrain, justement ? Est-ce qu'on est uniquement dans Châlons en Champagne ? On déborde sur l'agglo et peut-être un peu plus ?
On intervient principalement sur les communes centres du pays de Châlons, quoi, de Châlons agglo. Donc les quartiers populaires de Châlons en Champagne, mais également sur les communes de Fagnières, la commune de Saint-Mimi, Compertry, et nous pouvons être également sollicités par les communes de l'agglomération de Châlons-Champagne pour l'accompagnement ponctuel d'un jeune qui rencontre des difficultés qu'on a évoquées, qu'elles soient d'ordre familial, de formation, scolaire, ou une difficulté d'orientation. Toutefois, il y a cette idée aussi de travailler en partenariat, et on voit s'il est judicieux que le service de prévention spécialisé de Châlons intervient auprès de tel jeune ou tel jeune, sachant qu'il y a des partenaires qui peuvent être plus compétents en la matière que nous.
Monsieur Adno parlait de réseaux sociaux sur lesquels les jeunes sont et très régulièrement. Comment ça se passe, vous, au sein de l'association ? Est-ce que vous avez besoin de formation, justement, pour intégrer ces réseaux sociaux ? Avoir un certain code ?
C'est nécessaire en ce sens où la plupart d'entre nous sommes adultes, dorénavant, sans présager de l'âge que nous pouvons avoir. Et il y a une évolution relativement rapide des réseaux sociaux et également de la pratique et de l'investissement de ceux-ci. Donc c'est venu bouleverser notre pratique. Comme le précisait Monsieur Adno, dans un premier temps, la prévention spécialisée s'est construite sur cette démarche d'aller vers, aller à la rencontre des jeunes sur leur territoire. Alors ça pouvait être un parc, une cage d'escalier, une cave ou tout simplement l'espace public ou les espaces collectifs au niveau de l'habitat collectif des bailleurs sociaux. Dorénavant, Et ça s'est accentué avec la crise de la Covid. Nombre de jeunes restent chez eux ou communiquent principalement par le biais de ces réseaux. Bon, je ne vais pas les citer, on les connaît tous. De fait, nous avons aussi développé notre présence sur les réseaux par le biais de la création d'un site internet, mais aussi de publications qui peuvent avoir, bon, je vais en citer quelques-uns quand même, puisque ça incitera les jeunes à venir nous voir, que ce soit par le biais d'Instagram, le biais de YouTube également, et nous avons un site internet dont on vous communiquera les coordonnées en fin d'émission.
D'accord. Et vous-même, vous arrivez à suivre toutes ces évolutions numériques ou le conseil d'administration en général ?
Bien, on a un exemple qui est sur le travail qui a été réalisé en l'année dernière et qui se poursuit encore cette année, c'est on t'escorte sur les réseaux. C'était vraiment sur la prévention de l'exploitation sexuelle des jeunes, en particulier des jeunes filles. Et on a vu que ça se faisait plus spécialement dans la rue, plus spécialement dans un Airbnb, bien que ça existe aussi, mais ça se fait aussi sur les réseaux. Donc aucun territoire n'est à l'abri, et c'est pas uniquement le territoire local, c'est aussi sur le net que, et on pourra en parler aussi de cet exemple, on t'escorte sur le réseau, on a fait donc des rencontres avec les jeunes, des projections de films, des projections, des théâtres, et puis un colloque, on a fait un grand colloque l'année dernière sur... qui a duré toute une journée, sur justement comment on pouvait répondre à ce problème, qui est vraiment un problème qui est très prégnant sur le territoire, bien que certains ne se rendent pas vraiment compte, qu'on dit « mais non, ça n'existe pas chez moi », mais chez moi, ça peut être aussi sur le net. Donc si Michel peut donner quelques précisions sur ce travail que nous avons effectué tout au long de l'année 2025, et qui se poursuit encore.
Depuis quelques années, avec les partenaires du territoire, en l'occurrence les circonscriptions de la solidarité départementale, c'est l'action du département de la Marne, hein, au plus près des populations, et ça d'une manière générale. Donc, les assistants des services sociaux, assistantes sociales, si on veut parler de manière un peu plus simple, rencontraient au même titre que la CCP, alors notamment des jeunes filles en situation d'exploitation sexuelle. Alertés par la situation, je fais juste une petite parenthèse, on estime quand même en France, on n'a pas des chiffres précis, puisque ça reste une activité illégale et cachée, bien entendu, qu'entre 15 000 et 20 000 jeunes hommes et jeunes filles sont en situation d'exploitation sexuelle sur le territoire national. Chalon n'est pas épargné, la Marne n'est pas épargnée, bien entendu. Donc, avec nos partenaires du département, rencontrant ces situations, nous avons décidé de monter une action de sensibilisation, d'éducation à ce phénomène d'exploitation sexuelle des mineurs. Alors, par le biais, dans un premier temps, d'organisation de ciné-débats autour du consentement, autour du lover boy, qui est le petit ami qui amène sa compagne à se prostituer, mais également du point de vue de l'utilisateur, du consommateur de la prostitution. Donc ça s'était organisé au CGR, et puis un théâtre débat, dans un premier temps. Donc là, c'était pour sensibiliser à la fois les publics scolaires. Donc on organisait une séance en partenariat avec l'éducation nationale. Et le soir, c'était ouvert à tout public. Et avec effectivement des débats. Alors plusieurs partenaires étaient présents. Hein, le CRIAFS, qui est le centre régional d'information des auteurs, quoi, de prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Le CAP, plus spécifiquement, pardon, autour de la prostitution et de la prise en charge des adultes prostitués. Et le deuxième versant, c'est une intervention au sein de classes, mais aussi auprès de groupes, de professionnels que nous avons formés au sein de la CCP, et qui permet de pouvoir sensibiliser les jeunes publics à ce risque, qui est quand même très important, et puis qui engage les jeunes sur de nombreuses années, parce que vous imaginez bien qu'il y a une prise en charge à la fois physique mais psychologique des traumas que peuvent occasionner les difficultés et puis l'exploitation sexuelle des mineurs. Et pour conclure, donc en novembre dernier, la volonté aussi de mettre sur la place publique ce phénomène, donc comme l'a précisé Monsieur Anneau, notre président, l'organisation d'un colloque qui a donc à la salle Pelloutier à Châlons-Champagne, réunissant des intervenants, bon je vais pas les citer tous, mais sociologues, avocats, associations, autour de ce phénomène, et pouvoir alerter à la fois la population mais aussi les professionnels du secteur qui ne sont pas au fait de ce phénomène. Bon, nous avons l'intention de continuer cette action, bien entendu, puisque le phénomène ne s'arrête pas. Puis nous envisageons plusieurs actions dans l'année à venir.
Et ce fléau est d'autant plus dangereux qu'il est invisible pour la plupart des gens, puisqu'il se passe tout en réseaux sociaux.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une évolution quand même de la prostitution. Alors, pas seulement en France, hein, partout. C'est-à-dire que la prostitution de rue est de moins en moins importante. Ce qui était historiquement le cas. Il y avait des quartiers, des rues qui étaient spécifiquement identifiés avec des personnes en situation de prostitution. C'est plus tout à fait le cas maintenant. Alors, ça existe encore, mais ça reste à la marge. Et c'est effectivement l'utilisation des réseaux sociaux, mais aussi de sites spécialisés qui mettent en avant la vente du corps d'une jeune fille, d'un jeune homme ou d'une femme, d'un homme. Et effectivement, ce phénomène est de moins en moins visible et complexifie énormément la prise en charge.
Vous parliez tout à l'heure de vos partenaires, la CCP, qui vous agissez en partenariat avec les acteurs locaux. Vous offrez des activités culturelles, citoyennes et éducatives de qualité. Vous valorisez l'implication des jeunes dans le quartier et vous les aidez à construire un projet de vie. Avec quels partenaires travaillez-vous ?
Je vais donner quelques exemples. La mission locale. La mission locale, c'est le point d'entrée aussi des jeunes qui viennent pour qui ont un souci d'insertion dans la société ou une insertion professionnelle. Je pense aussi à Partage Travail, avec qui on travaille en étroite collaboration. Musique sur la ville, on a des chantiers jeunes. Ce serait aussi un des points de mobilisation des jeunes sur ce qu'on appelle des chantiers jeunes. Donc j'ai cité Musique sur la ville, la GEC aussi qui accueille aussi des jeunes, qui fait de l'insertion des jeunes par le logement. Donc voilà, ce sont des partenariats qui sont renouvelés et constants. C'est tous les jours qu'on est en contact, que les équipes sont en contact les uns avec les autres pour pouvoir rendre service à la jeunesse, la jeunesse des quartiers. On appartient des quartiers, mais pas uniquement des quartiers, des jeunesses du territoire.
On a parlé aussi de projets qui allaient être donc reconduits, notamment le projet Honte Escorte sur les réseaux. D'autres projets qui sont passés en 2025 ?
Oui, alors nous avons, pour compléter le propos du président, aussi un partenaire qui est très important et qui s'inscrit pleinement dans les projets que nous pouvons mener, c'est les bailleurs sociaux, avec notamment Nov Habitat et Clorial. Car à la CCP, on considère que le travail reste l'un des vecteurs d'intégration les plus importants. Donc, on ne fait pas la charité, par exemple. Si un jeune vient nous voir et qu'il a des difficultés financières, on ne fait pas de dons. Il y a des associations caritatives pour cela. On préfère les mobiliser par le biais du travail, avec la mise en place de chantiers éducatifs. Et l'un des partenaires les plus importants que nous ayons sur le territoire, donc je viens de le citer, effectivement, c'est Nov Habitat, mais on rajouterait Plurial. Musique sur la ville aussi propose des chantiers éducatifs, les associations et les collectivités. Le but étant de pouvoir salarier les jeunes sur des tâches, alors à faible technicité. À la fin du chantier, ils n'obtiendront pas une certification ou une qualification, mais une expérience professionnelle. L'idée étant de travailler sur les prérequis nécessaires à l'insertion. Des choses toutes simples, hein, la ponctualité, le respect des consignes, le respect du matériel, le respect de l'environnement, de l'encadrant. Et donc ça, c'est une action qui est pérenne depuis plusieurs années, que nous faisons financer dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, considérant que le travail est l'un des premiers vecteurs de lutte contre la délinquance. La délinquance, tout simplement parce qu'il y a un accès aux biens de consommation par le biais de la rémunération. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que le travail a des valeurs éducatives. On crée du lien social au travail. Et il y a une expression consacrée en France. Tout le monde ici s'accordera à dire qu'on est fier du travail qu'on a accompli. Lorsqu'on fait quelque chose et que ça réussit, on en tire une certaine fierté, et c'est bon pour la personne. Ça flatte l'ego, tout simplement, hein, dès qu'on rend quelque chose de bien. Donc ce sont des actions qu'on pérennise tout au long des années. Donc il y a d'autres actions, bien entendu. On organise, on va dire qu'en gros, l'intervention de la CCP, mais Jacques l'avait évoqué, il y a la présence sociale, il y a l'accompagnement individuel. Je tenais à le préciser quand même, c'est avec une absence de mandat nominatif, c'est-à-dire qu'aucune autorité administrative ou judiciaire ne nous mandate pour travailler auprès de tel ou tel jeune. Donc on favorise effectivement la libre adhésion de ces personnes. Et le troisième versant de notre intervention, ce sont les actions collectives, avec des actions de sensibilisation et d'éducation. On vient de voir, on t'escorte sur les réseaux, mais également des séjours éducatifs que les jeunes co-construisent avec les éducatrices et éducateurs du service. Et le troisième versant, ce sont effectivement le chantier éducatif. Alors, les actions de sensibilisation et d'éducation, on t'escorte sur les réseaux, mais on a travaillé également sur des randonnées qu'on organise, considérant que la marche a un côté cathartique et favorise l'échange. L'introspection et l'échange, tout simplement, avec les personnes que vous avez. On travaille aussi avec les jasés, on fait des ateliers maquillage, on travaille à la sécurisation du carnaval. On organise un séjour tous les ans en Normandie. Nous avons travaillé là sur un projet que nous avons nommé la prévention primaire. Donc c'était en partenariat avec le centre social du Verbeau pour favoriser l'inscription des plus jeunes au centre social du Verbeau, puisque nous avions remarqué avec les partenaires animateurs de ce centre social que nombre de jeunes publics en dehors de notre tranche d'âge étaient sur l'espace public et collectif sans s'inscrire. Donc comme il est défini dorénavant dans les politiques publiques des centres sociaux de la ville de Chalon, nous avons travaillé à la mise en place d'actions au milieu ouvert, des AMO. Qui a remporté un certain succès. Et cette année, là, en 2026, s'inscrivant aussi dans cette notion d'inclusion et de partage, on a un projet qui s'appelle Une année inclusive. Donc nous avions déjà expérimenté les choses les années précédentes, et là on part conjointement avec des jeunes femmes et des jeunes hommes porteurs de déficiences mentales qui sont pris en charge par la CPEI, et notamment sur le foyer de Vernet. Donc là, il y a des chantiers éducatifs communs, des actions communes, et un séjour qui viendra finaliser cette action.
Merci pour cette réponse. Restez en ligne, une petite coupure musicale avec Feu Chatterton, Le Monde Nouveau, et de suite après, ce sera le retour de Association Loi 1901.
Sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les sprints, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit. Serveur central.
Pleuvait sur le serveur central.
Un monde nouveau, on en rêve tous.
Voilà, c'était Feu Chatterton, Monde Nouveau. On reprend, je suis toujours avec Monsieur Adno, président de la CCP, et Monsieur Fantova, directeur de la CCP. Pendant la petite coupure, on parlait de chiffres, on parlait de chantiers. Vous aviez des exemples à nous donner. Et puis, je vous avais posé la question aussi de la parité.
Oui, donc, je vais vous donner quelques exemples qui sont vraiment emblématiques du fonctionnement des chantiers jeunes de la CCP. Ces jeunes, c'est quand ils repeignent leur cage d'escalier. Donc c'est des jeunes qui habitent dans l'immeuble, qui vont repeindre l'escalier. Donc après, on verra que cette cage d'escalier, elle sera respectée, parce que les jeunes ont vraiment travaillé dans leur immeuble. On va faire également un travail autour de leur immeuble, quand ils nettoient les espaces verts, donc après ils sont respectés, ces espaces verts. Donc c'est des exemples de chantiers qui permettent à ces jeunes d'avoir aussi une valorisation, parce que quand ils ont réalisé quelque chose de bien, c'est beau de voir une cage d'escalier bien propre, et donc ça valorise également le travail de ces jeunes. Alors des jeunes qui sont souvent des jeunes hommes par rapport à des jeunes femmes. C'est 2/3, 1/3, généralement. Voilà un peu la répartition de notre public.
Alors, on a une explication sur cette non-parité?
Historiquement, on va dire, il y a plus d'hommes sur l'espace public, et notamment stationnant, que de femmes, même s'il y a une évolution de la tendance, où les femmes, et Dieu merci, occupent de plus en plus l'espace public. Mais bon, voilà, c'est principalement ça. Puis les conduites à risque concernaient principalement les jeunes hommes. Bon, l'adolescence, c'est un âge d'expérimentation. On l'a tous fait des petites bêtises. Pour certains, ces bêtises sont un peu plus importantes. Et bon, voilà, elles concernent principalement les jeunes hommes, quoi, les jeunes garçons.
Vous, statistiquement, est-ce que vous avez des chiffres par rapport au nombre de jeunes? Alors, on va peut-être pas remonter sur les 30 ans.
Non, mais je vais vous donner les chiffres qu'on a. Alors, actuellement, on est dans une période de bilan, si vous voulez. C'est la vie des associations, quand même.
Et oui.
Donc, on doit rendre nos bilans financiers, les bilans des actions, le bilan de notre activité. Donc, l'an dernier, en 2025, pour l'exercice 2025, nous avons touché un peu plus de 630 jeunes. Sur le bassin de Chalon. Alors, quand je dis toucher, c'est pas obligatoirement, et je tiens quand même à le préciser, 630 délinquants. Pas d'inquiétude, Chalon va bien, mais on peut travailler avec des jeunes filles et des jeunes garçons simplement parce qu'ils vivent dans des familles, dans le cadre d'une famille paupérisée. Hein. Ça peut être juste ça. Et je voudrais aussi mettre un bémol, les quartiers populaires de Chalon ne sont pas un nid de délinquance. Nombre de personnes y résidant travaillent, comme tout à chacun, et aspirent à une intégration et à une vie meilleure et construite sereinement sur notre bassin. Donc plus de 630 jeunes, avec en gros 400 hommes et 220 jeunes filles. Sur les tranches d'âge, comme on l'a précisé tout à l'heure, donc nous, notre convention qui nous lie à nos deux partenaires financiers, que sont Chalon Agglo et le département, nous invite à travailler principalement avec les 16-25 ans. Monsieur le Président l'a précisé, nous débordons un peu avant, parce que certains phénomènes peuvent se dérouler dès le collège. Et puis nous continuons, bien entendu, à accompagner les personnes avec lesquelles nous avons travaillé un peu au-delà de 25 ans. On ne prendra pas de nouveaux jeunes à 27-28 ans si on ne connaît pas la personne, mais quelqu'un avec qui nous avons travaillé au préalable. On continue à accompagner cette personne de manière à sécuriser son parcours. Donc les 16-25 ans représentent en gros 73% du public avec lequel nous travaillons. Si nous faisons un focus un peu plus particulier sur les chantiers éducatifs, pour l'année 2025, c'est 114 jeunes, 46 filles et 68 garçons qui ont été mobilisés sur ces actions pour 94 chantiers, ce qui représente un volume de, en gros, 2350 heures de travail. Ce qui est relativement important, malgré tout, puisque ça fait plus d'un plein temps. Si la CCP avait embauché des personnes, on aurait un salarié et demi en plus, qui aurait produit des activités. Et, puis voilà, mais on a aussi les professionnels adéquats au sein de l'association qui nous permettent de mener ces actions.
On a parlé chiffres, on a parlé volontariat, surtout de la part de ces jeunes qui viennent à vous ou que vous repérez. Est-ce que vous avez un quota ?
C'est-à-dire ?
635 jeunes l'an dernier pour 2025. Ah. Est-ce que si cette année vous explosez les compteurs, c'est possible pour vous ?
Oui, alors après, la qualité s'en ressentirait, parce que... Alors ça, c'est le problème du travail social dans sa grande généralité, c'est-à-dire le nombre de mesures que nous pouvons avoir. Vous imaginez bien que travailler avec 30 jeunes pour une personne produit un travail de meilleure qualité que si on travaille avec 80 jeunes pour une personne. Donc, nos partenaires ne nous imposent aucun quota. On n'a pas de nombre précis à enregistrer, on n'a pas cette pression-là. Le but étant de pouvoir produire quand même un travail de qualité, un accompagnement au plus près. On travaille avec de l'humain.
À savoir que quand même, nous sommes, on aurait dû en parler peut-être avant, nous sommes une petite équipe. Hein, nous sommes une équipe de 13 salariés, quoi, fait principalement d'éducateurs. Hein, on a 9 éducateurs, un encadrant technique, une secrétaire, une comptable et puis un directeur. Mais donc c'est vraiment une petite équipe pour, si on rapporte les 600, les plus de 600 jeunes suivis et les, disons, 10 éducateurs, ça fait quand même un nombre de jeunes suivis par éducateur assez élevé quand même.
Et justement, vous acceptez du bénévolat, des volontaires qui auraient du temps à donner ?
C'est un peu compliqué par rapport à nos actions et par rapport aux obligations qui nous sont faites. Alors déjà, si je reprends la convention, on nous demande d'avoir du personnel qualifié. Mmh. Autrement dit, pour travailler à la CCP, il faut être titulaire d'un diplôme d'état d'éducateur spécialisé ou d'un diplôme d'état d'assistant des services sociaux. Dorénavant, avec les évolutions de la loi, on demande aussi, et c'est important, je le pense, une attestation. Alors, bien entendu, on demande le casier judiciaire B2, mais aussi, dorénavant, une attestation d'honorabilité. Précisant que les personnes qui interviennent auprès des jeunes publics sont exempts de toute condamnation ou de procédure en cours, et notamment autour de tout ce qui pourrait être violence ou fait sexuel. Et l'investissement pour nous de bénévoles se situerait plutôt au niveau du conseil d'administration. Nous sommes une association, il y a certes des membres de droit, mais il y a également des personnes qui, sensibles à l'évolution de notre jeunesse, s'investissent au sein des instances de représentation de notre association.
D'accord. Alors, sous quel statut, qui est votre financeur principal ? C'est l'État ? C'est la collectivité ?
Nous avons deux financeurs qui sont à parité. C'est la communauté d'agglomération de Chalon et le département de la Marne. On a dit que l'aglo, c'était au titre de la prévention de la délinquance, et le département dans le cadre de l'accompagnement social des jeunes et de l'aide sociale à l'enfance. Ce sont nos deux principaux financeurs. Mais bien sûr, sur différents projets, on fait appel à d'autres financeurs, que ce soit la ville dans le cadre du contrat de ville ou l'État dans le cadre de la prévention de la délinquance. Et puis aussi, plus parfois dans d'autres situations, sur certains projets, on peut aller chercher des financements. Globalement, pour donner un chiffre, on a un budget d'environ 800 000 euros. Donc 800 000 euros, c'est à la fois beaucoup pour les financeurs, c'est pour ça que souvent on va présenter notre action auprès du département et de l'aglo, parce que quand on dit mais oui, vous avez un gros budget, j'ai dit on a un gros budget peut-être, mais si on divise ce budget par le nombre de jeunes contactés, le nombre de jeunes qu'on essaye de remettre, je vais mettre remettre dans le droit chemin, si on peut dire, mais c'est aussi important d'avoir et tout, il faudrait avoir aussi tous les coûts sociaux éviter avec un financement et une petite équipe comme ça auprès de jeunes.
Et rien ne vous empêche aussi d'avoir des financements privés avec d'autres partenaires, ou vous êtes lié moralement par un contrat
Non, si quelqu'un veut nous donner de l'argent, on accepte les dons. Hein.
L'appel est lancé.
On a eu des fondations, hein, parfois.
Voilà. Et je tiens à préciser également que, puisque nous touchons quand même de l'argent public, nous sommes contrôlés par un commissaire aux comptes qui, tous les ans, certifie que nos comptes répondent bien aux obligations comptables françaises et qu'il n'y a pas de malversation au sein de notre association. Et nous avons été moult fois contrôlés par les services de l'URSSAF et il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez faire des dons à l'association, ça sera utilisé à bon escient.
Bien sûr. Je pensais notamment à des partenaires privés, peut-être, je ne sais pas si vous le faites, en échange d'un logo sur une action. Est-ce que c'est possible ?
Oui, on l'a déjà fait, oui. Bon, c'est à la marge malgré tout, hein. On sollicite l'État, les collectivités, ça reste quand même la puissance publique qui nous appuie dans notre action. Mais il y a également la région, pour en citer d'autres, sur des projets particuliers, la CAF, ça peut être l'ARS, donc l'Agence Régionale de Santé, mais c'est également les services de l'État. Donc voilà. On va dire qu'on n'a pas cette culture d'aller chercher de l'argent privé, peut-être à tort. C'est quelque chose que nous devons...
Il faut avoir le temps aussi.
Alors voilà, il faut avoir le temps et puis il faudrait peut-être y travailler un peu plus. L'argent public étant de plus en plus contraint de nos jours. Malgré tout, il faut quand même remercier les deux collectivités qui nous ont toujours appuyés depuis un certain nombre d'années, qui considèrent que la prévention spécialisée produit son effet sur l'ensemble des territoires de la Marne. Petite parenthèse, hein, il y a la CCP à Châlons-en-Champagne, mais il existe aussi d'autres services de prévention spécialisés sur les centres urbains chalonnais, à savoir le SDP à Reims, qui est porté en direct par le département de la Marne, d'où l'intérêt quand même du département pour la prévention, mais également à Épernay avec le club de prévention. Puis la sauvegarde de la Marne, qui gère une équipe de prévention spécialisée sur la ville de Vitry-le-François.
Il faut signaler également que ce n'est pas le cas dans tout le territoire français. Quoi. Il y a des départements qui ont abandonné un peu la prévention. Il y a des agglos ou des villes qui ne considèrent pas la prévention de la délinquance comme une priorité.
Alors on va parler contact à présent, peut-être des réseaux sociaux à nous communiquer, une adresse physique et un numéro de téléphone.
Ah, bon. Alors... le siège de la CCP, déjà, se situe 14 rue Pasteur, à Châlons-en-Champagne. Vous pouvez nous joindre au 03 26 68 44 78. Et nous sommes ouverts de 9h à midi et de 14h à 18h sur rendez-vous les lundis et mardis. Le mercredi et le vendredi après-midi, de 14h à 17h30, nous y assurons des permanences où vous pouvez vous y rendre sans rendez-vous. Je précise malgré tout que le mardi matin, nous avons une réunion institutionnelle et donc nous n'accueillons pas de public. Vous pouvez également nous contacter par des mails. Donc il y a contact@accpchalon.fr, contact@accpchalon.fr. Nous avons un site internet où sont répertoriées nos actions, mais aussi où nous expliquons notre manière d'intervenir. Donc c'est accpchalon.fr. Et vous pouvez nous retrouver sur Instagram, également YouTube, il me semble, à vérifier. En tout cas, Instagram, voilà, et Facebook.
Voilà, le tour a été fait. Merci à tous les deux d'avoir été présents. C'est une émission qu'on retrouvera tout au long de la semaine prochaine sur les ondes de Radio Mono et aussi en podcast sur le site de Radio Mono. Merci à tous.
Merci.
Merci.
« 1901, place aux associations ».